Le journal, Olivier Zano.
Bonjour. Après la grisaille, le soleil pour Tornos, le fabricant prévotois de machines-outils annonce ce matin des résultats très positifs pour l'exercice 2021, après une année 2020 compliquée. Une tendance qui devrait se poursuivre cette année, vous l'entendrez. Faut-il accorder un soutien financier aux médias? Les Suisses se prononceront le 13 février sur une aide spéciale des médias à sauver ou qui pourraient perdre leur indépendance. Morceau choisi d'un débat organisé ce matin sur nos ondes avec Hervé Gulotti et Marc Fru. C'en est terminé de la présence helvétique à l'Open d'Australie de tennis, du moins dans les deux tournois en simple. Après l'élimination de Jill Teichmann la nuit dernière, Belinda Bencic a pris la porte ce matin au deuxième tour. Leur réaction dans notre page sport. Un ciel encore bien dégagé ce midi, il devrait se couvrir progressivement dans l'après-midi et nous apporter pourquoi pas quelques flocons en soirée. Les températures stagneront entre 3 et 5 degrés au meilleur de la journée. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour Tornos. Après une année 2020 difficile, l'exercice 2021 boucle sur des résultats très positifs. Le fabricant prévotois de machines-outils a annoncé ce matin les explications d'Anthony Montandon.
204 millions de francs d'entrée de commande en 2021, c'est une explosion de 108% par rapport à l'exercice précédent. S'agissant du chiffre d'affaires, Tornos observe là aussi un bond en avant, plus 66% à 171 millions de francs. Des résultats réjouissants, le groupe le souligne ce matin dans un communiqué, même s'ils sont à relativiser puisqu'ils sont comparés à l'exercice 2020, un exercice lourdement impacté par la crise du Covid. Reste que l'entreprise de Moutier a su faire preuve de résilience. Elle le doit au marché automobile qui a repris des couleurs également au segment des techniques médicales et dentaires. Et puis Tornos a su développer ses activités de services et pièces de rechange. L'entreprise a également lancé une nouvelle offre qui consiste à mettre à niveau ses anciennes machines. L'avenir proche s'annonce tout aussi positif. Le fabricant de machines-outils table sur un résultat net positif au premier semestre. Il anticipe même des chiffres d'affaires très favorables pour la seconde moitié de l'année.
Notez que Tornos communiquera ses chiffres détaillés et définitifs le 7 mars à l'occasion de sa conférence dédiée aux analystes financiers, une obligation qui découle de la cotation en bourse de l'entreprise prévotoise. L'administration cantonale bernoise doit pouvoir continuer à fournir des services importants à la population, à l'économie et au monde politique en cas d'incident majeur. Le conseil exécutif a annoncé ce matin qu'un plan général sera élaboré. Il devra permettre de définir quels sont les services du canton les plus importants, notamment les services vitaux pour la population, et trouver le moyen de les maintenir durablement ou de les restaurer rapidement après une interruption, une panne d'électricité par exemple. Selon les autorités, la crise du Covid-19 a montré à quel point les services publics sont primordiaux dans les situations extraordinaires. Le 13 février prochain, les Suisses sont appelés aux urnes. Ils devront notamment s'exprimer sur la loi fédérale sur le train de mesures en faveur des médias, un texte qu'ils souhaitent soutenir à hauteur d'un maximum de 151 millions de francs par an, les médias suisses, une aide qui serait financée par le budget de la Confédération et par la redevance. Les partisans espèrent ainsi éviter la disparition de nouveaux médias. Une septantaine depuis 2003 a subi ce sort. Le comité référendaire estime, lui, que les médias perdront leur indépendance. RJB a donné la parole aux deux camps ce matin dans un débat. Marc Fru de l'Union démocratique fédérale est prêt à prendre le risque que de nouveaux titres disparaissent. On l'écoute.
Je pense que les journaux sont présents et il y a une modification qui se fait, il y a une évolution qui se fait au niveau de la marge médiatique. Et pour l'UDF, je pense que c'est très important que les médias qui sont innovatives, qui sont instigatrices, qui ont une bonne activité journalistique, ils vont rester. Nous n'avons absolument pas à craindre. Il est incontestable que le paysage médiatique suisse, il est dominé par un groupe de 4 grands médias et le reste, c'est vraiment, excusez-moi, c'est du peanut, c'est du 0,5%, donc c'est du 5 pour 1000. Je pense que c'est vraiment important qu'on ne donne pas un gros cadeau fiscal à des entreprises qui ont fait 300 millions de bénéfices et les petites entreprises comme RJB, Ecomagazine, etc. Mais ils ne recevront que des miettes.
Sans surprise, le socialiste Hervé Gulotti, partisan de la loi, ne partage pas le même avis.
Notre démocratie suisse, on le sait, a besoin de ses habitants. Nous sommes souvent sollicités les dimanches de votation pour se prononcer sur des sujets complexes. Sans les médias, que ferions-nous ? Deuxième chose, les médias locaux sont très importants aussi pour l'ensemble de la population, surtout dans nos régions. On a besoin d'avoir des médias forts, indépendants. Cette manne qui ne s'élève pas à des miettes, certains médias locaux me l'ont confirmé, ils attendent quelques centaines de milliers de francs d'aide, notamment en matière de distribution. Et c'est extrêmement important qu'on puisse maintenir ces médias locaux qui sont complètement indépendants dans notre région. Qu'est-ce qu'on ferait, Monsieur Fru ? Nous arrivons en période électorale, on n'a plus de médias. Où est-ce que vous allez faire la publicité de vos candidats au Grand Conseil, au Conseil du Jura bernois ? C'est certainement pas dans le Bilbien, c'est certainement pas dans la Neue Zürcher Zeitung. Vous avez besoin de médias locaux et nous avons besoin pour forger l'opinion, pour aussi défendre nos valeurs de démocratie directe. Je pense que c'est extrêmement important.
Un dossier réalisé par Séverine Boé. Retrouvez ce débat dans son intégralité et en vidéo sur rjb.ch. A noter que la semaine prochaine, on vous proposera un éclairage sur l'initiative populaire intitulée « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ». Cet après-midi se tiendra la réunion Covid du Conseil fédéral. 5 organisations de la société civile ont déjà appelé ce matin un durcissement de la lutte contre la pandémie. Elles justifient leur position notamment par les dommages causés à l'économie et à la société par les conséquences à long terme de la pandémie. À court terme également, l'incidence actuellement élevée de plus de 4000 cas pour 100 000 habitants engendre des coûts, notamment en termes d'absentéisme au travail, selon elles. Pour rappel, la consultation sur les propositions du Conseil fédéral concernant la pandémie s'est achevée lundi. Cantons, partis et associations se sont opposés à une large majorité au durcissement des mesures. Infectés sous les drapeaux, près de 300 militaires testés positifs au coronavirus sont isolés dans différentes casernes en Suisse. C'est ce qu'indiquent aujourd'hui les responsables de l'armée. Il y a de la place pour l'isolement de 1100 personnes, ont-ils précisé. À Boltigen, dans le canton de Berne, par exemple, les soldats infectés se font livrer leur repas par un service de restauration. Cette nourriture est ensuite distribuée par le personnel sanitaire via un SAS. Pour un engagement clair en faveur de la responsabilité numérique. C'est sous ce slogan que la fondation indépendante Swiss Digital Initiative a présenté hier le premier label numérique de confiance pour diverses entreprises de services et appelé à devenir mondial. Les explications de Frédéric Nejad Toulamy.
Les technologies numériques sont omniprésentes au quotidien, mais les risques d'arnaque et la perte de confiance s'accroissent à l'heure des vols de données et des cyberattaques. Basée à Genève, la Fondation Swiss Digital Initiative veut donner des garanties aux usagers d'Internet et de nombreuses apps sur le sort de leurs data avec des projets concrets. Le lancement du label de confiance, le Digital Trust Label, en est un exemple. Présidente de la Fondation Swiss Digital Initiative, Doris Leuthard décrit le Digital Trust Label comme une garantie de confiance dans le monde numérique à l'image d'un label bio et d'un tableau des valeurs nutritives. Nouveau membre du conseil de fondation, le vaudois André Koudelski, patron du groupe homonyme, nous lui avons demandé quelle était l'utilité concrète de cette certification.
L'élément clé, ce sont tout d'abord les conséquences si les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Beaucoup trop de systèmes dans le domaine des technologies de l'information n'ont pas été conçus en ayant le concept de sécurité en tête. Le second point, c'est au niveau de la protection des données, n'ont pas non plus été conçus au départ là-dessus. Si vous avez un système qui est sécurisé de par son architecture, il sera beaucoup plus résistant contre des attaques extérieures, mais aussi les conséquences, si tout d'un coup un système venait à être pénétré, peuvent être nettement, je dirais, diminuées si vous avez conçu les choses de façon correcte.
Et selon vous, est-ce que le Swiss Made, si j'ose dire, qui entoure ce label, est-ce que c'est un avantage au niveau mondial ?
Alors c'est un avantage parce que la Suisse est considérée comme un centre de confiance très apprécié. Et elle a l'avantage d'avoir une certaine neutralité et le fait d'être à la pointe au niveau de bien des technologies.
Et donc cette certification, ce label de confiance devrait parvenir à s'imposer mondialement ?
Je pense qu'il a déjà un gros avantage, c'est qu'il est beaucoup plus neutre que d'autres initiatives.
Mais pour l'heure, des multinationales comme Google ou Facebook n'ont pas encore montré d'intérêt à cette certification. Quant au groupe Koudelski, il devrait y adhérer étape par étape.
Dans l'actualité internationale, 8 membres d'un groupe anti-vaccin seront jugés pour harcèlement en France. Les 2 hommes et 6 femmes sont soupçonnés d'appartenir à un groupe structuré. Ils ont été interpellés hier dans plusieurs départements. Ils auraient harcelé l'an dernier de façon concertée et en ligne 3 personnes, dont 2 élus. Le secrétaire d'État américain a appelé aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine à choisir la voie pacifique pour sortir de la crise ukrainienne. Anthony Blinken a toutefois noté que Moscou pourrait renforcer très rapidement ses troupes qui menacent déjà son voisin. Le secrétaire d'État a entamé aujourd'hui à Kiev sa tournée européenne. Les États-Unis ont également annoncé ce matin le déblocage de 200 millions de dollars supplémentaires d'aide sécuritaire à l'Ukraine.
Vous écoutez RGB, il est midi 26.
Sport. Fin de parcours abrupte pour le clan suisse à l'Open d'Australie de tennis. Les deux dernières Suissesses en lice, Jill Teichmann et Belinda Bencic, ont été sorties au deuxième tour du tournoi du Grand Chelem cette nuit. La Biennoise a été balayée 6-1-6-2 par la Biélorusse Victoria Azarenka, 25e joueuse mondiale. Quelques heures plus tard, c'est Belinda Bencic qui prenait la porte après une défaite 6-2-7-5 devant l'Américaine Amanda Anisimova. La Saint-Galloise a été plombée par un problème physique qui a dû faire appel au physio sur le court. Cette élimination ne lui laisse pas beaucoup de regrets vu son état.
C'est mon bassin qui s'est bloqué. Je le ressens déjà depuis 3 jours et c'est musculaire. Il s'est bloqué. J'ai essayé de voir si sur le court, le physio pouvait me débloquer, mais pour le moment, c'est dur. Je considère que c'est le résultat du dernier match sans préparation physique. Je suis tout simplement pas fit, disons assez en forme pour pouvoir battre une joueuse à un tel niveau. Je joue bien, j'ai mon niveau, mais j'ai eu de la malchance dans ma préparation après mon Covid et je devais rester réaliste et pas penser que je pouvais espérer gagner ce grand chelem. J'étais déjà contente de pouvoir jouer ici et j'ai trouvé qu'Amanda a bien joué, elle est dans le coup. Et moi, si j'avais été à 100%, qui sait, peut-être je l'aurais emporté ce match, mais même ça, je ne peux pas le dire.
Un peu plus de regrets, en revanche, du côté de Jill Teichmann face à Victoria Azarenka. La Biennoise a éprouvé beaucoup de difficultés au service contre la Biélorusse, s'agaçant notamment du vent. Elle n'en fait pas une excuse et s'en est prise à elle-même après le match. Jill Teichmann.
Ça a commencé avec le problème du vent, mais on est joueur de tennis, elle avait les mêmes problèmes, mais elle a trouvé une solution et moi pas. C'est pour ça que la frustration c'était plus et plus après, parce que je trouvais pas la solution et je crois que je peux la trouver. J'ai le niveau, j'ai beaucoup fois déjà montré que je l'ai, et donc c'est toujours pas facile. Et on a une bonne adversaire avec beaucoup de niveau et on veut sortir du terrain et dire j'ai tout donné, j'ai fait ce que je pouvais, après on gagne, on perd, mais au moins tout donné.
Des propos recueillis et traduits par Hélène Scott-Smith. Jill Teichmann jouera encore le double à Melbourne aux côtés de Victoria Golubic. Deux joueurs du HCBN porteront le maillot de la Suisse le mois prochain aux Jeux Olympiques de Pékin. La liste du sélectionneur Patrick Fischer a été dévoilée hier. Le gardien Joren van Pottelberg et l'attaquant Gaëtan Haas font partie des 25 joueurs retenus. Autre joueur originaire de la région qui y figure, l'attaquant de Zug, Grégory Hoffmann, qui a grandi dans le Jura bernois. Tout ce petit monde s'est justement retrouvé hier soir sur la glace à l'occasion du match de National League entre Zug et Bienne. Tous heureux, forcément, de figurer parmi les élus. Jérémy Pignard.
A commencer par les Biennois, Joren van Pottelberg qui va vivre ses premiers JO, Gaëtan Haas qui était lui déjà de la partie à Pyeongchang en 2018. L'attaquant biennois ravi de s'envoler pour Pékin, cette fois avec un copain de vestiaire.
C'est vraiment cool parce que il y a 4 ans quand j'étais à Bienne, j'étais tout le temps le seul Biennois un peu à me retrouver là-bas. Et c'est cool de pouvoir partager ça aussi avec quelqu'un de l'équipe. J'ai pu le partager avec l'équipe quand j'étais à Berne, donc c'est vraiment cool à vivre. On en a déjà parlé les deux, puis je dis vraiment qu'ils pouvaient se réjouir, parce que c'est vraiment un truc qui arrive une, peut-être deux fois dans la vie, donc c'est vraiment une très belle expérience.
Ce sera aussi la deuxième Olympiade pour l'attaquant de Zug, Grégory Hoffmann, né à Bienne, fier de revêtir à nouveau le maillot national pour un tel tournoi.
C'est magnifique de pouvoir représenter l'équipe nationale dans des JO, donc... C'est une grande fête pour tous les athlètes et bien sûr, on va tâcher d'atteindre nos objectifs.
Et avant le début de la saison, le staff de l'équipe nationale annonçait objectif demi-finale, mais Gaëtan Haas n'a pas voulu se mouiller sur le sujet hier soir.
Je pense que le coach a déjà plus ou moins annoncé ça dans les médias. J'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vais attendre qu'on ait la discussion avec tout le monde avant de parler de ça.
Tous veulent en tout cas effacer la désillusion de Pyeongchang il y a 4 ans où la Suisse avait été sortie sèchement dès les quarts de finale.
Et puis encore un mot de hockey sur glace pour vous dire que le HC Ajoie tient son nouveau directeur sportif. Julien Vauclair a été officialisé ce matin par le club ajoulot. Le jurassien formé au HCA était il y a quelques heures encore recruteur pour le HC Lugano. Libéré par le club tessinois, il prend ses nouvelles fonctions dans le Jura avec effet immédiat. Son prédécesseur Vincent Leschen se concentrera davantage sur son rôle d'entraîneur assistant. Les deux hommes collaboreront néanmoins sur le recrutement en vue de la saison prochaine. 12h31 sur RGB. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée.